Bonjour. On m'a demandé, moi j'interviens, je suis un peu différent de vous puisque je suis un mauvais éditeur commercial qui fait de l'argent. Enfin non, qui n'en fait pas, mais ça c'est une autre histoire. Alors d'où je parle, moi j'ai été conservateur de bibliothèque, comme ça a été rappelé, certains se rappellent peut-être de BiblioFR. J'ai été ensuite enseignant-chercheur en informatique. Et à ce titre-là, c'est là que j'ai fusionner les deux compétences et donc parler beaucoup de culture numérique. Et comme add-on à la culture numérique enseignement, j'ai fait des livres de culture numérique et créé donc une maison d'édition commerciale. La cohérence de tout ça, c'est la volonté de transmettre, de rendre disponible. Et alors, pourquoi le livre? C'est-à-dire, pourquoi un spécialiste, j'étais un de ceux qui a créé les premières formations sur Internet en France. Pourquoi le livre? Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse quand on veut faire des livres. C'est le plus grand support de l'humanisme. C'est le seul endroit où il n'y a pas de publicité. Réfléchissez-y bien, mais c'est le seul endroit où il n'y a pas de publicité. C'est un vecteur de révolution. Que la révolution soit modeste, rappelez-vous du rôle de la jungle de Upton Sinclair en 1905 pour avoir créé la Food and Drug Administration aux États-Unis, ou que ce soit les grandes révolutions comme l'encyclopédie, la Révolution française. Alors, qu'est-ce qu'un livre? Moi, j'aime beaucoup la définition de Michel Melot. Il l'a reprise du Coran. Un livre, c'est ce qu'il y a entre deux couvertures. C'est-à-dire que tout le contenu est là. On n'est pas, c'est pas le web. Le web, c'est fabuleux. J'ai donné des tas de cours sur le web. Je fais des sites web, tout ça. Mais ce n'est pas la même chose qu'un livre, parce qu'un livre nous oblige à suivre la pensée d'un auteur ou d'un collectif d'auteurs, d'avoir une démonstration, avoir un message. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on a quelque chose qui est construit, qui va donc nous permettre de changer le monde. On parle ensuite de chaîne du livre. On est enchaîné un peu, c'est sûr. Les uns aux autres. Hein. C'est une chaîne où tous, on va commencer à corriger le travail d'un auteur, mais on va jusqu'à la bibliothèque. Mais c'est aussi une chaîne dans laquelle les gens se donnent la main, hein, si tous les éditeurs du monde pouvaient se donner la main. Alors, dans cette chaîne, moi, j'ai tendance à distinguer l'avant-publication de l'après-publication, qui nous amène à deux approches différentes de la sobriété ou de l'éco-conception. Juste les dessins de mon collègue Nicolas Taffin. On a tendance à dire qu'il y a l'auteur, l'autrice. Je pense dans l'éco-conception, l'équilibre de genre me semble essentiel. Et le lecteur ou la lectrice. Et entre les deux, il y a une boîte noire, qui est la chaîne du livre. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Et l'édition scientifique est le meilleur modèle. C'est-à-dire, pour être un auteur scientifique, il faut d'abord être un lecteur scientifique. Et donc, on boucle. Ce n'est pas une chaîne, c'est une espèce de cycle avec des tas d'allers-retours, de choses qu'on jette à la poubelle, de choses qu'on ne verra jamais, et de réutilisation aussi, de choses qu'on a pu faire. Alors, à ce moment-là, arrive le passage au numérique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le livre, il est complètement numérique, même si ce n'est pas un livre numérique. Parce que dès son origine, il a été écrit sur un traitement de texte. Et vous savez, si vous vous rappelez bien tout ce qui a été dit à l'origine du traitement de texte, c'est que on n'écrit pas pareil parce qu'on parle à son ordinateur. Donc, on a des phrases beaucoup plus longues. Votre rôle d'éditeur, vous le savez bien, surtout avec nos amis chercheurs, c'est de couper les phrases en deux, en trois, en quatre. Voilà. Donc, on commence par du texte qui nous vient d'un traitement de texte, donc qui a été parlé, c'est un écrit parlé à son ordinateur, et après on va le modifier, on va utiliser la PAO. Le livre numérique lui-même, format EPUB, diffusion numérique, lecture numérique, etc., c'est un sous-produit de ça. Voilà. Pour nous, par exemple, dans notre maison d'édition, le livre numérique, c'est l'équivalent d'une édition de poche. D'ailleurs, le prix, c'est 40% du prix standard, c'est voilà, c'est un accès. Est permis, mais bon, le livre. Alors, première partie de la fabrication, je vais partir d'un exemple, enfin j'ai deux exemples que je vais vous montrer. Un qui est le catalogue des œuvres de Anton van Dyck qui sont conservées au musée du Louvre. Donc c'est quelque chose sur lequel CF Éditions a travaillé en partenariat avec le musée du Louvre, avec comme objectif de faire que la chaîne de production qui a servi à faire ce catalogue, qui sert aujourd'hui à travailler un deuxième catalogue sur les stèles puniques, finisse à la fin du deuxième catalogue par être une chaîne publique que vous pourrez réutiliser. Voilà. Première notion, bye bye InDesign. Ouais, InDesign, c'est fabuleux, sûr, pour faire des magazines. Mais ce n'est pas des livres. C'est-à-dire, si on veut faire un livre, on a une conception à long terme. Ce ne sont pas des blocs juxtaposés. Ce ne sont pas il faut avoir une logique de flux de texte quand on fait un livre, même quand c'est un livre qui a beaucoup de notes, etc. Deuxième problème, c'est le WYSIWYG. Croire que l'écran et l'imprimé, c'est la même chose, c'est un piège. Hein, c'est un piège. On ne voit pas du tout la même chose. Le troisième piège, c'est le passage dans le cloud. C'est-à-dire aujourd'hui, InDesign, la Creative Suite, elle dépend du cloud. Et donc, on est doublement dépendant. On ne peut pas avoir d'ancienne version. On ne peut pas réutiliser forcément nos anciennes maquettes. Donc, on a un problème de réutilisabilité. Et puis, il y a cette fameuse aventure Pantone. Pantone était intégré à InDesign. C'était super. On payait qu'une fois pour les deux. Maintenant, Pantone n'est plus dans InDesign. Donc, il faut payer deux fois. Ça ne veut pas dire qu'InDesign a baissé de prix. Mais ça veut dire que tous les travaux qui avaient été faits utilisant Pantone auparavant sont perdus. Et si vous les réouvrez dans votre InDesign, vous avez une merveilleuse carré noir. Donc, on est dans une logique de dépendance. Moi, je pense qu'il faut quitter une logique de dépendance. Et le meilleur moyen de la quitter, c'est de s'appuyer sur des normes et des technologies éprouvées. La norme et la technologie éprouvée pour produire des documents aujourd'hui, c'est HTML. Soyons clairs, c'est éprouvé dans tous les sens. C'est peut-être pas la meilleure, elle a peut-être des défauts, mais elle est éprouvée et il y a une palanquée d'outils qui permettent de travailler à partir de HTML. Donc, le catalogue du Louvre, dont je vais vous montrer des exemples, a été entièrement fabriqué à partir de HTML et de CSS. L'utilisation JavaScript, PHJS, je n'insiste pas trop parce que je sais que Julie Blanc, qui est la grande spécialiste de PHJS, va vous en parler en fin d'après-midi et malheureusement, je dois rentrer, donc je ne pourrai pas assister à son exposé. Il s'agit aussi de s'appuyer sur des outils libres. On a parlé de la science ouverte, mais en informatique, on a la question des logiciels libres qui est essentielle. Et que ce soit pour produire dans le même flux le PDF imprimeur, le pub et un site web. Ici, nous avons une copie d'écran du site web, à vous voyez avec les choses qui s'ouvrent et qui se ferment, enfin tout ce qui est la logique d'un site web. Et là, vous avez une page de la version imprimée, hein, une double page de la version imprimée qui a été entièrement produite en HTML tout print. Alors bien sûr, excusez-moi, c'est Nicolas Taffin, Julien Taquet et Agathe Baez qui ont fait ça, c'est-à-dire des grands spécialistes. Hein. Moi, au premier jour, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par des choses plus simples. Le premier livre, alors on discutait avec Julie tout à l'heure, oui, c'est bien le premier, quelques mois près par rapport au sien, qui a été fait avec PJS, donc avec cette logique HTML to print, ça s'appelle Addiction sur ordonnance, et il a été fait fin 2018, début 2019. C'est un modèle simple, vous voyez, c'est le code HTML, on ne peut pas bien le lire, mais c'est du code HTML le plus simplifié possible, surtout pas le code HTML qui est en export de InDesign ou en export de Word, un code complètement simplifié auquel on va rajouter des feuilles de style, des polices libres, là aussi la licence CIL pour l'utilisation des polices, c'est vraiment quelque chose à mon sens très, très important. Et voilà le résultat, donc vous voyez, c'est le résultat de la page que je vous ai présenté ici en code HTML. Donc, on peut arriver à des choses beaucoup plus complexes, comme le dernier livre publié par Nicolas Taffin dans notre maison d'édition. Excusez-moi de faire un peu de promotion. On est commercial, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez où on peut intégrer des images, les positionner dans les pages, etc. Le tout en mode HTML. Arriver à avoir des grilles, l'équivalent de grilles, là, c'est un exemple du musée du Louvre aussi, comme on peut faire sur InDesign ou sur d'autres logiciels de mise en page. Alors, je pense que pour fabriquer des livres, il faut penser que c'est un flux de texte et d'images et pas une juxtaposition de blocs. Il faut entrer du code, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouvel apprentissage. C'est clair, qui est l'apprentissage qui consiste à penser en code et non pas à regarder son écran pour essayer de déplacer des objets. Bon. Mais ça permet aussi des outils autonomes, ça permet de réutiliser. On est sur du code HTML, qui plus est du code HTML simple, efficace, donc réutilisable à long terme. C'est un nouveau savoir-faire, donc il va falloir qu'on mette en place des formations. Ça, je crois que c'est vraiment un élément important. Le travail collaboratif à distance, il nous arrive de travailler à deux sur le même livre en même temps. Voilà. Derrière les outils, c'est des personnes. Je crois qu'il faut aussi être clair. Un livre, c'est des individus qui font des livres. Ce n'est pas des outils qui font les livres. Les outils sont au service des individus qui font les livres. Donc, j'ai cité sur ce projet livre, hein, je pense Camille Souris, Nicolas Taffin, Julien Daquet, Agathe Baès. Hein, et puis, appuyer sur la communauté qui s'appelle Pré-Postprint, dont Julie est une des représentantes. C'est le fait qu'il y a aussi des fondations qui financent la réalisation des outils. Bon, il faut donc des personnes, des savoir-faire et des outils. Si on passe maintenant de l'autre côté de la barrière, une fois qu'on a pensé ça et qu'on passe à l'impression et au tirage, là on a un problème, c'est la réduction du stock. Ce problème de réduction du stock, c'est clair, il est complètement contradictoire avec la logique de la chaîne du livre telle que nos amis les diffuseurs-distributeurs veulent la mettre en place. On a un autre problème, c'est que la qualité des impressions numériques, certes, c'est pas mal, enfin, c'est pas encore la même chose qu'une vraie impression offset. Et disons qu'au-dessus de 300 exemplaires, c'est pas rentable. Donc là aussi, il faut le métier d'éditeur, c'est se planter une fois sur deux sur l'évaluation de ses livres. C'est-à-dire à chaque fois qu'on n'en fait pas assez, on perd de l'argent dans le deuxième tirage. Et à chaque fois qu'on en fait trop, on perd de l'argent parce qu'il y en a qui restent en stock. Deuxième aspect de l'après, du post-publication, c'est la logistique. Par rapport à la réflexion de notre collègue des presses tout à l'heure, je pense qu'il n'a pas dû compter le prix de la logistique dans son évaluation sur la comparaison numérique et imprimée. C'est des centaines de camions qui, tous les jours, traversent les villes et les rues de France. Il me reste 2 minutes. Donc, ce problème des camions était essentiel. Et derrière, le problème des camions, il y a le problème de la librairie. Soyons clairs, la loi Lang a été faite en 1981 pour développer la bibliodiversité. C'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le libraire, il ouvre les camions que lui impose le distributeur, il referme les livres qu'il n'a pas vendus dans un autre carton qu'il va retourner chez le distributeur, et le distributeur va en profiter pour faire payer le stockage à l'éditeur. Ça s'appelle, Cory Doctorow a un très beau terme, qui s'appelle enchitification des plateformes, le devenir merdique des plateformes. C'est-à-dire celui qui est au milieu, celui qui joue la plateforme, et celui qui va tirer les ficelles de tout le monde, et qui va en réalité diriger l'ensemble du système. C'est celui qui gère la logistique. Alors nous, on a choisi de ne pas le faire. Bon, voilà. Livre numérique, juste deux mots, c'est un marché marginal, surtout pour les essais. Moi, autant j'arrive à lire des romans. Tant les essais, non. Et ce n'est pas seulement l'odeur du livre. Je crois qu'il faut. Vous voyez, il y a un problème cognitif. Est-ce que ce problème va durer? Ça, j'en sais rien. Je ne parle pas pour dans 5 siècles. Hein. Je parle pour maintenant. En l'an 500, Augustin, quand il revient d'Afrique et qu'il rentre dans la cellule de son maître, Ambroise, qui va devenir son maître, plutôt il n'est pas encore, il est fasciné. Il est complètement à plat parce que. Ambroise lit sans remuer les lèvres. En l'an 500, ça ne se faisait pas. On labialisait tout. Aujourd'hui, on apprend ça aux élèves en cours préparatoire. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera en 5 siècles, mais aujourd'hui, on ne mémorise pas pareil. Voilà, donc pour les essais, et donc, notamment, c'est pas. Dernier point, nous avons écrit une licence qui s'appelle la licence édition équitable et que nous appliquons à nos livres. Qui dit, alors elle vaut surtout, bien évidemment, pour les versions numériques, hein, quelles qu'elles soient. Qui dit en substance, écoutez, pas de DRM, pas de traçage, prix raisonnable. Attendez, le lecteur ou la lectrice ont le droit de lire. Mais en même temps, il faut respecter l'éditeur, respecter son travail. On peut donner à ses voisins, ses amis, oui, ça, pas de problème, le mettre sur un site web pour partager avec le monde entier, ben là, on n'est plus très équitable. Voilà. Donc, il me semble que ça, c'est aussi un élément d'éco-conception qui est d'inciter au respect mutuel du lecteur. Et ce n'est pas en ayant la haine du lecteur, comme l'ont la majeure partie des éditeurs qui essayent de les empêcher de lire, que ça marchera. Voilà. Alors, défendre l'écologie du livre, ben, pour nous, c'est un projet enthousiasmant. En même temps, c'est un projet difficile. Donc voilà, moi j'ai donné quelques pistes qu'on essaye d'utiliser, mais on n'est pas des saints, on essaye d'avancer pas à pas. Et je pense que si tout le monde fait pareil, ben on va avancer tous ensemble. Merci à vous.